Equinox FM.
On en parle ici.
Eh bien, bonjour, chers auditeurs et chères auditrices. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon mercredi. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Pierre Prudhomme pour parler de véganisme. Marie-Pierre Prudhomme est formatrice, coach, consultante en bien-être au travail, psychopraticienne en thérapie brève dans l'hypnose et l'EFT avec une orientation systémique, diplômée en psychologie et membre de l'Association européenne des praticiens d'hypnose, aussi spécialiste en nutrithérapie, diplômée au CFNA et professeure de yoga et instructeur fitness. Bonjour Madame Prudhomme.
Bonjour Ferhat. Merci beaucoup. Bien. Oui, bien merci.
Aujourd'hui, on est réunis pour parler de véganisme. On sait que le véganisme, c'est ne pas manger de la viande, mais en effet, quelle est la différence entre le véganisme, le végétalisme et le végétarisme?
Oui, alors c'est vraiment important de pouvoir clarifier. En fait, le véganisme comprend du végétalisme. Donc, végétalisme, c'est lorsqu'on mange uniquement ce qui est d'origine végétale. Et donc, dans le véganisme, il y a ça, effectivement, plus et aller plus loin, en fait, dans la réflexion. Donc, c'est à la fois ne pas manger d'animaux, mais ne rien manger qui vient des animaux. Par exemple, on ne va pas consommer de miel, on ne va pas consommer de lait. Mais il y a une question aussi éthique de ne pas exploiter les animaux. Donc le vegan n'aura pas des chaussures en cuir, n'aura pas d'ivan en cuir ou des choses qui ont été produites à partir de l'animal. Donc c'est manger végétalien, mais en plus... il y a cette dimension de « je ne souhaite pas exploiter l'animal et je ne prends rien qui vient de l'animal ». Et végétarien, le végétarien, il pourra inclure par exemple des œufs dans son alimentation, ou peut-être même des produits laitiers. Mais le végétalien, c'est exclusivement d'origine végétale.
Et vous êtes végane ou pas?
Alors, moi, j'ai une alimentation qui est quasi végétalienne. Et la seule chose que je mange qui est d'origine animale, ce sont les œufs. Parce que personnellement, dans ce moment-ci de ma vie, je n'ai pas la sensation de faire du tort aux poules qui m'offrent leurs œufs. Je les connais, ces poules, elles vivent vraiment dans le respect. Elles ont une très, très belle vie. Et si elles m'offrent des œufs, voilà, c'est avec gratitude que j'en profite et j'ai pas l'impression de leur faire du mal, mais je ne mange pas de produits laitiers. Je mange des légumineuses, des oléagineux, beaucoup de fruits et légumes. Donc je ne suis pas végane dans le sens où j'ai un divan en cuir, il a 20 ans, je ne vais pas le jeter pour racheter un divan en plastique. Il me pollue avec les émanations de plastique. Le divan, il est là, on me l'a donné. Je considère que je n'ai pas trop participé au crime. Mais néanmoins, quand je m'assieds dans mon divan, ça peut être parfois pas hyper agréable pour moi parce qu'il y a quand même cette conscience de, au final, c'est du cuir, mais il y a une souffrance animale derrière. Donc dans le véganisme, on est vraiment dans le respect de l'animal et la conscience, l'envie de respecter la créature.
Et quels sont les principaux bénéfices pour la santé de ces régimes véganes, végétariens?
Alors, ils sont gigantesques. Quand on mange des animaux et ce qui vient des animaux, il y a énormément de production inflammatoire. Et avoir de l'inflammation dans le corps, c'est vraiment la base pour créer tout ce qu'on veut comme pathologie, que ce soit des cancers, que ce soit des maladies dégénératives. Donc il y a ce problème vraiment d'inflammation qui est généré par la viande, par les produits animaux en général. Au niveau du lait, plus l'animal d'origine est grand et gros, plus c'est problématique. Donc le lait, il sert à la croissance. Ça veut dire qu'il y a des facteurs de croissance dans le lait. Et plus l'animal est gros, plus ces facteurs de croissance seront importants. Donc ces facteurs de croissance, si dans notre organisme il y a une tumeur, ça va nourrir cette tumeur et ça va vraiment l'aider à se développer. Alors il y a d'autres problèmes avec le lait. problème au niveau inflammatoire, il y a un problème avec le lactose qui est le sucre du lait qui peut aussi générer des troubles intestinaux. Et dans le lait, il y a aussi la protéine de lait qui peut poser des problèmes. Et il y a des études qui ont été faites au niveau de la schizophrénie, des psychiatres très ouverts qui se sont questionnés sur l'hypermédication dans le cas de schizophrénie et qui ont voulu tester le jeûne sur les patients, le jeûne et l'abstinence de gluten et de produits laitiers, en supprimant la médication. Et donc, les symptômes étaient toujours là. Par contre, je n'ai plus les chiffres en tête, mais ce sont des études américaines où ça a été clairement démontré. En supprimant les produits laitiers et le gluten, les symptômes de schizophrénie disparaissaient complètement. Et donc là, ça pose un petit peu question au niveau de l'effet sur le cerveau de ce type, de ce type d'aliments. Donc ça, c'est pour les produits laitiers et pour le gluten. Moi, personnellement, j'ai également rayé le gluten de mon alimentation. Ça n'a rien à voir avec le véganisme. Donc, il y a la question de l'inflammation, il y a la question des produits laitiers qui sont délétères. Il y a la question aussi des déchets, de la gestion des déchets, des cellules qui sont exposées à un surcroît de protéines d'origine animale et de toute façon végétale également. Il y a vraiment une asphyxie au niveau cellulaire. Il y a un dégagement d'ammoniac et quand on respire de l'ammoniac, on sent ce que ça fait. Donc, c'est ce qui peut se produire, c'est ce qui se produit dans l'organisme. Alors il y a également tous les risques cardiovasculaires et des relations de cause à effet d'un terrain qui va être propice entre autres à des problèmes au niveau de la glycémie là on a les deux, on a problème cardiovasculaire plus problème au niveau de la glycémie, des risques de diabète, etc. parce qu'il y a un fond inflammatoire qui est toujours présent. Il y a des problèmes de sommeil également, des problèmes d'agressivité avec la consommation de produits d'origine animale. Ça a été prouvé et reprouvé. C'est très, très simple à comprendre. Il y a les composants de la viande. Il y a tout ce qu'il faut dedans pour développer de l'agressivité et pour empêcher le sommeil. Donc, quelqu'un qui va manger le soir un gros morceau de bœuf et arroser ça avec du vin rouge et mettre des frites à côté et manger quelque chose de sucré, socialement, c'est quelque chose qui paraît banal, mais si on regarde vraiment les dégâts que ça fait dans l'organisme, c'est une vraie catastrophe. Mais ces dégâts, ils ne sont pas nécessairement visibles. Et donc la personne qui va dire oh, « moi je mange ça et je ne sens rien », mais c'est une personne qui est exposée à un jour où elle ne s'y attend pas parce qu'il n'y avait aucun signe à avoir un AVC ou avoir un problème qui est là. Parfois, les problèmes sont là, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire des personnes qui ont des multi-allergies, par exemple. Les multi-allergies, on sait que c'est un problème qui vient davantage de l'intestin. Les personnes qui ont leur système immunitaire qui est complètement défaillant. Donc, une personne peut se croire en bonne santé, croire que son alimentation est adéquate parce qu'elle a l'impression de bien digérer, mais ce n'est absolument pas un bon indicateur.
Et vous l'avez dit tout à l'heure que le lait était toxique. Est-ce qu'il faut enlever le lait de notre alimentation pour jamais ou on peut le consommer avec modération?
Alors, moi, je ne pense pas que le lait soit intéressant dans notre alimentation, mais il faut regarder les chiffres et l'économie du produit laitier. Si on retire d'un supermarché traditionnel tout ce qui a trait au lait, il ne reste pas grand-chose. Toutes les friandises, il y a de la poudre de lait dedans, donc c'est énorme. Donc, d'un point de vue purement santé, moi, je ne vois pas d'avantage à la consommation de lait qui, lorsqu'il n'est pas bio, en plus, il y a, de toute façon, il y a un tas d'hormones dedans de façon naturelle, mais il y en a d'autres en plus, plus des antibiotiques. Donc, voilà. Mais économiquement, c'est comme les céréales. Les céréales ne sont pas utiles pour la santé, mais dans une idée commerciale et démographique et de gestion de la nourriture pour l'ensemble de la population, si on retire tout ça, y aura-t-il tout de suite à manger pour tout le monde ? Tout de suite maintenant, c'est pas sûr, il y a des choses à mettre en place, mais d'un point de vue de santé individuelle, moi personnellement, je ne vois pas davantage, je n'en vois pas. Donc oui, pour moi, c'est pas à garder, mais il y a d'autres choses à mettre en place. Mais il faut s'interroger aussi sur la dimension affective et les symboles du lait, c'est blanc, c'est pur, ça représente l'enfance, c'est doux. Et dans le lait, il y a la caséine. La caséine, c'est morphine-like, donc pour le cerveau, c'est comme de la morphine. Et le traditionnel lait chaud avant d'aller dormir, il y a des personnes qui sont réellement addictes à ça, mais il peut vraiment y avoir une addiction à ça, parce que ça va réellement contribuer à aider à l'endormissement. Donc il y a toute cette dimension-là, et toute l'agriculture qui va derrière. On se dit, si on coupe toute l'industrie laitière, eh bien, il y a un problème économique.
Et ce sont tous les types de lait ou seulement de la vache ?
Ils ont tous ces caractéristiques-là, mais plus l'animal est gros, plus il y a ce problème de facteurs de croissance. Alors, il y a la graisse dans le lait qui n'est pas du tout adéquate. Donc voilà, moi, si je m'octroie de temps à autre quelque chose qui est de type laitier, mais c'est hyper, hyper rare, ça va être un petit fromage de personnes que je connais qui ont leur chèvre ou leur brebis, qui pâturent et qui sont dans des très, très bonnes conditions. Et si elle m'offre un petit morceau de fromage, je le goûterai aussi par amitié et plaisir de partager. Mais d'une façon générale, moi, à ma connaissance, je vois pas trop ce que ça amène. Il faut savoir aussi que le produit laitier a un impact acidifiant sur l'organisme. Et donc, c'est exactement l'inverse de ce que l'on croit. Les pays où on a la plus grosse consommation de produits laitiers, c'est là qu'il y a le plus d'ostéoporose, donc vraiment de destruction des tissus osseux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un apport d'une substance qui est acidifiante et que le corps, pour compenser l'acidité, va aller chercher de quoi composer dans les os. Et donc, il va déminéraliser. Donc, consommer du lait, c'est l'inverse de ce qu'on croit, ça déminéralise. Ok, il y a du calcium qui n'est pas nécessairement super assimilable, il y a du calcium, c'est vrai, mais il y a aussi dans le lait de quoi amener cette acidité, et alors ce sont les os qui font tampon, et c'est absorbé dans les os pour réguler l'équilibre acide-base de l'organisme.
Et si quelqu'un dit « je ne peux pas m'en passer du lait », est-ce qu'il peut passer au lait de soja ou au lait d'amande, ou c'est pareil ?
Pour autant qu'il y soit ouvert et qu'il ait envie de le faire, donc ça, on devrait plutôt dire des hydrolats, puisque ce n'est pas du lait en fait, ce sont des amandes ou des noix de cajou dont on a extrait en fait, on a fait un lait avec ça, si on peut dire, mais c'est pas vraiment un lait, c'est plus un hydrolat. Et il y en a qui sont vraiment intéressants parce qu'ils sont enrichis. Il y en a qui sont enrichis, entre autres, de cette fameuse vitamine, B12. Donc, si on en a envie, ça peut être chouette et de s'ouvrir à ça. D'avoir un petit mousseur, par exemple, ça peut être chouette. Faire mousser du lait de soja, et ben c'est une autre façon de le consommer. C'est chaud, c'est onctueux. Mmh. Voilà, c'est découvrir d'autres choses.
Chers auditeurs, chères auditrices, vous êtes sur Equinox FM avec votre émission On en parle ici. Nous continuons toujours à parler de véganisme avec Marie-Pierre Prudhomme. Et Madame Prudhomme, les personnes qui adoptent un régime végétarien ou végétalien risquent-elles des carences nutritionnelles?
Alors, c'est une bonne question. En fait, ni plus ni moins que quelqu'un qui est omnivore et qui ne fait pas ses courses de façon adéquate. Manger végétalien ou végétarien en achetant des aliments qui sont tout faits et ou enlever simplement de son assiette les aliments qui viennent qui sont d'origine animale, ça n'ira pas. Moi j'ai d'abord été végétarienne pendant plusieurs années avant d'étudier la nutrithérapie. Et je suis sortie du végétarisme parce que mon alimentation n'était pas OK, mais j'étais un petit peu démunie. En fait, si on veut manger végétalien ou végétarien, c'est une autre façon de se nourrir. Ce n'est pas enlever, c'est ajouter. Et ajouter, c'est ajouter... Travailler avec des légumineuses, travailler avec des graines, avec des oléagineux, avec des graines germées, avec des aliments qui sont vraiment à très... On parlait de vibrations ici pour se référer à l'énergétique, mais des aliments qui sont hauts en vibration, qui sont hauts en vie. C'est-à-dire, si on regarde un aliment, il y a des aliments qui sont vides. Et malheureusement, si on regarde une grande surface, je suis désolée, mais je crois qu'on peut retirer 80% du rayon en se disant c'est vide. Donc qu'est-ce que c'est un aliment vide? Ça veut dire que la teneur en nutriments potentiellement actifs pour l'organisme est complètement écrasée, qu'il y a beaucoup plus de volume pour l'aliment, mais que la concentration en nutriments vifs, utiles, elle n'est pas là. Et donc, si elle n'est pas là, ça veut dire que l'organisme va vraiment complètement s'encrasser. Mais ça ne répond pas à la question. Hein. C'était quoi la question? Pardon.
Les personnes qui adoptent un régime végétarien ou végétalien risquent-elles des carences nutritionnelles?
Ah oui, donc si j'étais quand même dedans, pardon. Ouais. Donc, elles risquent, si elles ne font que enlever, mais enlever de l'assiette, ça peut être vraiment un réflexe. Moi, comme plein de personnes qui sont devenues végétariennes ou véganes, ça vient d'un moment où il y a d'autres causes, mais l'origine est souvent une prise de conscience de... Mais ce qui est là dans mon assiette, en fait, c'est un morceau de bête morte. Comment est-ce que cette bête morte s'est retrouvée dans mon assiette? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors moi, professionnellement, j'ai rencontré des vétérinaires qui eux-mêmes sont devenus végétariens, voire véganes, parce qu'en tant que professionnels, eux, ils ont constaté ce qui se passe dans le transport et ce qui se passe dans les abattoirs, tous les loupés, toute la maltraitance. C'est quand même, voilà, je ne vais pas donner de détails, mais une fois qu'on a pris conscience de ça, vraiment conscience dans les tripes, moi personnellement, là c'était panique à bord et je ne voulais plus participer au crime. Donc mon premier réflexe, ça a été de jeter tout ça de mon assiette, mais ce n'était pas équilibré. Donc ce à quoi il faut faire attention, c'est d'avoir énormément de fruits et de légumes qui soient frais et d'avoir des sources de protéines végétales. Tout ça dans un mode de vie, c'est un mode de vie où on va vraiment prendre soin de sa santé. Aller vers le végétarisme, le véganisme, le végétalisme, ça fait partie d'une envie de prendre soin de la nature, prendre soin de soi, etc. Enfin, encore une fois, ce n'est pas uniquement la motivation, mais c'est souvent le cas. Donc, éviter les carences, c'est soigner ses sources de protéines végétales, c'est soigner la qualité de ses aliments, une alimentation qui est sélective, et soigner son hygiène de vie. Voilà, c'est un tout.
Et est-ce qu'il faut prendre des compléments alimentaires avec ça ou pas?
Alors, ça peut. Si on est végane, Si on est vegan, la source de vitamine B12 peut être plus délicate. Donc là, ça peut être un complément alimentaire. Mais quoique, voilà, il y a aussi moyen quand même de trouver dans une alimentation végétale qui est équilibrée. Mais voilà, moi, si je recommande un complément, c'est la B12.
Et vous le dites que vous êtes devenue vous-même végane. Est-ce qu'on peut adopter un régime végétalien du jour au lendemain?
Alors, ça dépend comment on se pose la question. Si la personne est dans cette prise de conscience, je ne veux plus manger d'animaux, je ne veux plus contribuer à la souffrance animale, et qu'elle est prise par ça, et qu'elle consulte en nutrithérapie. Enfin, moi, j'ai déjà eu des personnes qui sont dans cette dynamique-là, où quelque part, elles sont vraiment dans un appel à l'aide, de dire, mais, au secours, je ne veux plus manger ça maintenant, qu'est-ce que je fais? Bien, elles sont dans une ouverture, vraiment, pour mettre en place une nouvelle alimentation. Mais ça peut être plus facile d'intégrer tout doucement, parce que c'est vraiment manger autrement qu'un steak frites. Mais ça peut être vraiment très progressif. Et si c'est même une fois par semaine, mais c'est déjà ça de pris, et c'est très très bien comme ça.
Et vous êtes vous-même nutrithérapeute, alors quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite faire la transition vers un régime végétalien?
Quand même de consulter pour avoir quand même un support qui soit à la fois au niveau des nutriments et un support au niveau plus du coaching, du changement d'alimentation, parce que l'alimentation, elle est bourrée d'affect, elle est bourrée d'émotionnel. Et puis, si on ne vit pas seul, c'est de voir comment on compose avec des enfants, avec un conjoint, avec un partenaire de vie, ou si on vit avec ses parents, comment je fais en tant qu'enfant, si ce sont mes parents qui font à manger, mais que j'ai envie, moi, de changer d'alimentation. Donc, c'est à prendre vraiment dans la globalité. Donc, je dirais, si on a envie de changer, c'est de le faire vraiment posément, de se faire aider pour être dans la réflexion, pour que ce soit progressif. Et qu'on se sente bien, parce que si du jour au lendemain, on change toute son alimentation, la flore intestinale n'a pas le temps de s'adapter, émotionnellement, on n'a pas le temps de s'adapter. Donc, c'est se mettre de petits objectifs, comme ça peut être une fois par semaine, le week-end, je m'intéresse à des nouvelles modes de cuisine.
Et quels sont les préjugés les plus fréquents autour du véganisme?
Ce qui vient d'être dit, hein, on est carencé, ou alors, il y a certains véganes qui sont tellement dans la conscience de faire mal aux animaux, ils ont tellement conscience de ce que c'est que y a des préjugés de militantisme derrière. Hein, ce sont des personnes qui sont militantes, qui sont rigides, mais moi, je ne crois pas. Je crois simplement qu'elles sont dans la conscience. Mais vous avez vu ce qui se passe. Il suffit de regarder un peu le site de Gaïa, hein, qui documente quand même très, très bien ce qui est affligé aux animaux. Ces personnes sont dans la conscience. Oh là, ça ne va pas là. On fait tout pour faire fermer les yeux aux gens, pour les déconscientiser. Ils ne savent pas ce qu'ils mangent. Ils ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et on fait tout pour occulter ça. Et donc, il y a les véganes qui crient derrière et qui disent « Mais vous avez vu ce qui se passe ? Au secours, quoi ! Au secours ! C'est un appel au secours !» Donc, dans les préjugés, il y a peur des carences et une représentation des véganes comme militants et rigides.
Et comment vous voyez l'évolution de ces modes alimentaires dans le futur ?
Eh bien, je suis optimiste. Parce que je crois qu'il y a de plus en plus de tendances à manger végétal. Il y a également, je tombe plus sur le nom, mais il y a... D'abord, il y a des organisations de plus en plus officielles et il y a quelque chose qui... Je tombe plus sur le nom, c'est un organisme qui dépend de la Wallonie qui prône le véganisme et qui prône un plan vers le végétarisme, vers l'alimentation plus végétale. Ça se développe. Les gens s'ouvrent de plus en plus à ça. Les consciences aussi s'ouvrent quand même de plus en plus à oser réaliser. Il y a quelque chose qui cloche et il y a des choses qui sont à faire. Ce qui est chouette, c'est si je prends soin de ma santé, bien ça va épargner de la souffrance animale. Et ça, c'est win-win, quoi, c'est super. Mais c'est valable dans l'autre sens aussi.
Et nous sommes repartis pour parler de véganisme avec Madame Marie-Pierre Prudhomme. J'espère que le sujet vous plaît bien. Il est déjà 15h41. Madame Prudhomme, comment équilibrer ses repas pour s'assurer d'avoir un apport suffisant en protéines? Parce qu'on sait que les protéines viennent de la viande, mais si on ne mange pas de viande, comment on fait?
Alors, les protéines, il y a des protéines végétales. Et ce qui compte, c'est d'avoir l'ensemble des acides aminés qui constituent ces protéines. Alors, si on mange des œufs, on est OK, c'est une bonne source de protéines. Si on ne mange pas d'œufs, il y a les lentilles, le soja, toutes les fèves, tout ça, il y a des acides aminés en proportion diversifiée dedans. Donc voilà, également les graines de chia. Donc, tout ça, il y a des acides aminés dedans. Donc le tout, c'est de pouvoir avoir cet apport-là de cette façon-là. Mais en se posant une question, celle de l'apport, effectivement, c'est une bonne question, mais c'est de se demander aussi, tiens, est-ce que j'assimile correctement? Et donc, la question de l'assimilation, elle est fondamentale. On peut avoir les meilleurs aliments et les meilleurs nutriments, mais si on n'assimile pas ce qu'on prend, on n'est pas très avancé, quelle que soit la qualité. Donc, pour pouvoir assimiler correctement, il y a des conditions qui sont à remplir, entre autres la condition de la mastication. Super bien mâcher ces aliments, des aliments qui ne sont pas bien mâchés, ils ne sont pas bien digérés. Il y a les conditions dans lesquelles on mange. Si on mange en étant en état de stress ou même simplement d'agitation, même une agitation parce qu'on a bon de faire quelque chose, mais peu importe l'organisme, s'il est dans l'agitation, il va continuer sur sa lancée. Il va continuer sur sa lancée pendant qu'on est en train de prendre le repas. Et s'il est dans l'agitation, eh bien, ça va accélérer la digestion, mais ça va aussi plus avoir tendance à amener des sécrétions qui ne seront pas équilibrantes pour notre digestion et notre assimilation. Donc, cette question d'assimilation, elle est fondamentale. Donc, en consultation de nutrithérapie, je questionne les personnes sur la qualité de leur transit. Si le transit n'est pas OK, on va prendre en considération, et ça peut être vraiment en collaboration avec des médecins, pour régulariser le transit. Un transit qui n'est pas OK, ça veut dire qu'on n'assimile pas bien. Donc il y a d'une part se questionner sur l'apport, et d'une part se questionner sur l'assimilation. Donc pour avoir les acides aminés, on se retourne vers les protéines végétales. Les apports en oméga, on va veiller à avoir une très bonne qualité d'huile. C'est très facile, prendre une bonne qualité d'huile de colza et d'huile d'olive. Si on prend l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile de colza pour 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, on est dans un équilibre. Si on a envie de prendre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et 4 de colza, je veux dire la proportion, c'est cette proportion-là qui est vraiment intéressante. Donc l'huile d'olive et de l'autre côté l'huile de colza ou l'huile de cameline, et là on a un très bon équilibre au niveau des oméga. En ce qui concerne les légumineuses, pour qu'elles soient assimilables par l'organisme, la préparation est essentielle. Donc la préparation, ça veut dire qu'il y a toujours un trempage. Les lentilles, les fèves, les pois chiches, etc. sont des mines, c'est waouh. Donc comment est-ce qu'on prépare? On fait tremper entre 12 et 24 heures et puis on rince très bien, on jette l'eau. Et puis on va commencer à cuire à partir d'une eau froide. Et dans cette eau, on pourra ajouter des algues, de la fenouil, de la cardamone pour que ça ne fermente pas quand on mange ça. Donc, ça, c'est au niveau de trempage et puis de cuisson. Ça va déjà permettre une bonne assimilation. S'il y a des bonnes huiles avec et des légumes, des fibres, ça va vraiment aider à avoir une très, très bonne assimilation. Et à la sortie du repas, de la vitamine C, puisque la vitamine C va aider à l'assimilation des protéines d'une façon générale. Par contre, un thé vert aura l'effet inverse. Donc, un thé vert, il va être pris vraiment à distance des protéines.
Je vais aussi vous poser la question des produits ultra transformés, mais d'abord, il y a une recherche qui a été réalisée. C'est Kylian Bouillard, docteur en sciences du sport spécialisé en nutrition, qui le cite dans son article. Il dit « L'équipe du Centre de recherche en épidémiologie et statistique de l'Université de Paris publie depuis 2018 des articles synthétisant ces analyses des données collectées chez plus de 100 000 participants à travers l'étude NutriNet Santé. Ces chercheurs ont successivement montré qu'une consommation accrue de produits ultra transformés était associée à davantage de risques de maladies cardiovasculaires, de maladies coronariennes et de maladies cérébrovasculaires, à davantage de risques de cancer et à davantage de risques de surpoids et d'obésité. Substituer son steak végétal à son beefsteak, ce serait donc passer de charib en sila, qui dit.
Mais oui, c'est vraiment tout à fait vrai, parce qu'il y a un tas de steaks, entre guillemets, végétaux. Quand on regarde la composition, au secours, quoi. Hein, ce sont des graisses trans, c'est plein de glucides, c'est plein de gluten. Donc voilà, c'est ça, on n'est vraiment pas avancé avec ça. Donc moi personnellement, je consomme pas ça du tout. Si on se retourne vers ça, c'est qu'on mangeait déjà un cordon bleu surgelé ou des fish sticks, quoi. C'est voilà. Donc vraiment s'alimenter végétal, on va plus loin que simplement enlever. C'est très facile de cuisiner comme ça. C'est juste une habitude. Personnellement, je passe très peu de temps à cuisiner, vraiment très très peu de temps. Mais chaque chose que je mange est hyper potentialisée, est hyper utile. Mais non, ça, je suis vraiment d'accord. C'est commercial, c'est purement commercial, c'est facile, c'est très facile. Les gens achètent ça, ils ne regardent pas ce qu'il y a derrière. Alors, il y a de l'huile de palme dedans, il y a des fécules de riz, donc il y a du riz dedans, donc ça fait péter le plafond en termes de glycémie. Mmh. Voilà, mauvaise graisse, glucides, et donc oui, cardiovasculaire, risque cardiovasculaire, diabète, tout ce qu'on veut. Mais ça, c'est une exploitation commerciale, en fait, de manger végétal.
Et donc, les steaks végétaux, c'est non?
Alors, je ne vais pas dire les steaks végétaux, c'est non pour tous, hein, mais il faut regarder ce qu'il y a vraiment dedans. Il faut regarder la composition. Par contre, il y a des falafels qui sont toutes faites. Et puisqu'on regarde la composition et gustativement, on goûte que c'est basique, et je trouve que, voilà, ça, je trouve que c'est quand même encore assez chouette. Mais il y a assez bien de steaks végétaux où il faut regarder le taux de glucides, il faut regarder s'il y a des graisses trans dedans. Mais ça va tellement vite de faire un petit steak végétal soi-même, c'est facile, quoi. Voilà, très très facile.
D'accord. Il va nous rester 10 minutes et je sais que vous allez nous donner une recette de mousse au chocolat et une recette de bouillon.
Alors, je vous explique.
Pour les véganes.
Comment ?
Pour les véganes.
Oui, donc, un bouillon de légumes, quand on est végane, végétarien, et quand on pratique le jeûne, c'est vraiment dans les fondamentaux, un bouillon, parce que c'est très, très reminéralisant. Voilà, et cette reminéralisation, on sent vraiment le corps qui palpe tous les minéraux, et ça réhydrate, ça fait un bien fou. Alors, moi, mon bouillon de sortie de jeûne, je le fais de la façon suivante. Je prends une casserole ou à feu doux, je mets des aromates, du laurier, de l'ail, du curcuma, de clou de girofle, du romarin, enfin du cumin. Donc, je fais lentement cuire ça dans de l'huile. Et à côté de cela, je fais cuire en cuiseur vapeur, en inox, je précise, avec zéro plastique, parce que là, c'est quand même catastrophique de cuire même si c'est du plastique soi-disant alimentaire et de qualité, mais quand on voit comment les critères sont définis, voilà, préférons quand même l'inox et le verre. Et donc, d'une part, j'ai ce petit Voilà ce petit mélange d'aromates qui cuit et qui chauffe la casserole tout doucement. Il ne faut jamais que ça fume. Si ça fume, c'est cancérigène, il faut jeter. Et d'autre part, eh bien, je mets cuire dans un cuiseur vapeur toutes sortes de légumes qui sont débités très très petits. Et je mets 20 minutes à 100 degrés, tout un cuiseur de légumes. Et à l'issue des 20 minutes, je récupère l'eau du cuiseur, je la mets dans la casserole où j'ai mis les aromates, et puis je mets les légumes dedans. Voilà. Et là, j'ai mon bouillon qui est fait, qui est vraiment... les légumes ont une saveur incroyable. Chaque légume a vraiment gardé toute sa saveur. Je l'ai mis sur le blog du site nutrithérapie-liège.be, nutrithérapie-liège.be. Sur le blog, il y a cette recette de bouillon. Elle est toute simple, mais en cuisinant comme ça, on conserve vraiment un maximum de nutriments. Alors, une mousse au chocolat, donc si on fait un repas, on va toujours prendre en considération, enfin, de toute façon, dans toute cuisine, qu'elle soit végétarienne ou traditionnelle, si le dessert, il doit faire partie de l'apport de nutriments. Donc, on se dire, ben, OK, quels sont les nutriments dont on a besoin et quel est l'apport nutritionnel du dessert. Eh bien, ce dessert, il peut avoir un apport nutritionnel en acides aminés, en protéines. Par exemple, cette mousse au chocolat, elle est super facile à faire et elle est délicieuse. C'est de prendre un bloc de tofu soyeux. Tofu soyeux, donc le tofu, c'est à base de soja. Le goût est neutre, le goût est vraiment neutre. Donc on le cuisine en sucré et en salé. Donc on a notre bloc de tofu soyeux. On ajoute du lait de coco, un berlingot de lait de coco, de la vanille naturelle. On peut faire fondre du chocolat ou si on préfère se faciliter la vie, du cacao déjà préparé comme Terra Ethica, il est bien équilibré et on met ça, on met le tout dans le lait de coco et le tofu soyeux. Il suffit simplement de mixer ça et de mettre au frigo. C'est tout. Et une heure et demie après, on a une mousse au chocolat qui est d'une onctuosité fantastique. Et là, on a des protéines, voilà, de façon tout à fait agréable pour un bon dessert. Donc, le bouillon... Et pourquoi pas une préparation au soja et puis notre mousse au chocolat. Et ça, c'est joli, c'est bon. La cuisine végétarienne et végane est magnifique. Elle est très colorée, elle est très appétissante. C'est beau. C'est une très belle cuisine, savoureuse, très, très simple. Et c'est ça qu'on travaille aussi en coaching nutri, c'est pouvoir, dans la pratique de la vie, comment est-ce que je fais ? Si j'ai 20 minutes pour préparer mon repas, comment est-ce que je fais ?
Et vous avez dit du chocolat, il faut mettre du chocolat noir.
Oui, de préférence, ça, ben, voilà, pour avoir au niveau glucidique que ce soit quand même raisonnable, du 85%, c'est déjà bien.
Oui. Je vous remercie d'être venu aujourd'hui ici dans les studios d'Equinox FM. C'était une très belle discussion. Il est déjà 15h54 et nous allons terminer ici l'émission. Nous avons parlé de véganisme avec Madame Prud'homme. Vous pouvez aller voir sur le site de Madame Prud'homme qui s'intitule prud'homme-nutrithérapie-liège.be.
Nutrithérapie.
Ah, seulement nutrithérapie.
Nutrithérapie-liège.
Ah. Nutrithérapie-liège.be et vous pourrez trouver toutes les infos sur ce site.